connaissances philosophiques, c'est en premier lieu l'expérience, je ne dis pas l'expérimentation, hein. Je ne reviens pas sur la distinction, l'expérience, donc le jugement d'existence, ceci est. Toute la métaphysique implique ce jugement d'existence, ceci est. On ne fait pas la métaphysique du possible. Des réalités possibles. Si l'homme pouvait voler comme un oiseau et comme un aigle, qu'est-ce que la métaphysique serait ? Alors ça, c'est un beau roman. C'est sûr. Je serai un aigle, Saint Jean, il est un aigle, je serai un aigle, j'aurai une vision très particulière du cours. Je passerai au-dessus, je repasserai pour voir à droite et à gauche. L'expérience, simple, mais c'est habituel, l'expérience, être conscient à ce qu'on fait. C'est ça qu'apporte la métaphysique. On est conscient à ce qu'on fait. Deuxièmement, saisie des principes. Ce qui n'est pas commode. Principe de l'être en tant qu'être, du point de vue causalité formelle, c'est la substance. Le principe n'est pas une loi. Le principe n'est pas quelque chose d'a priori. Le principe, il est dans la réalité. C'est la réalité que je saisis. Je la saisis sous un point de vue. Quand vous visitez une cathédrale, vous pouvez avoir différents points de vue. Vous vous mettez dans le fond, vous montez l'escalier pour aller le plus haut possible, et vous regardez, on a des visions différentes. Il faut s'habituer à comprendre ce que c'est que regarder quelque chose sous tel ou tel point de vue. La saisie des principes. Le principe est une réalité. C'est quelque chose de réel. Et quelque chose de premier. Quand vous étiez gosse, vous aimiez d'être sourcier, chercher les sources. Et le philosophe, il cherche les sources. Un principe est toujours une source. Un principe est toujours une source. Tout principe n'est pas une source, mais un principe est toujours une source. De là jaillit la chose. La découverte d'une source. La découverte d'une source, c'est très spécial. L'eau coule. On a saisi l'eau qui coulait, on l'a suivie. À un moment donné, on a été un peu trop loin et il n'y avait plus rien. Ah. Donc la source, elle a été dépassée. La source, c'est un point de départ. Un point de départ intellectuel de l'intelligence pour un principe. Un principe, c'est un point de départ. voyez, c'est un exemple qui n'est pas philosophique, mais qui est quand même très grand dans l'évangile de saint Jean. In principio erat verbum, in principio, dans le principe, in principio, dans le principe. C'est quelque chose de réel, hein. C'est le Père. Le Père est principe. Parce que je remonte jusqu'à lui, dans la généalogie, hein. Je cherche ce qui est premier, ah, Père. Père, point de départ de la famille, source de la famille, principe. In principio, dans le principe. Vous voyez, on confond énormément, et il faut arriver à dépasser la différence entre le principe et la loi. La loi est une vision de l'intelligence. La loi n'existe pas par elle-même, mais par mon intelligence. Tandis que le principe existe avant même que je le connaisse. Parce que le principe, il est. Il est dans la réalité. Il est la réalité. Il est la réalité dans ce qu'elle a de plus profond. Je ne peux pas saisir quelque chose de plus profond que le principe. Mon intelligence se heurte devant le principe. Sitôt le principe, je vois les effets qui viennent du principe. Et au-delà du principe, rien. Quand vous cherchez une source, je vous dis, c'est une petite expérience très, très intéressante, parce que je vois bien ce que c'est qu'une source. C'est réel, hein. La source existe même si je ne la trouve pas. Elle existe. Le principe, il existe, même si je ne trouve pas. Des quantités de gens ne font pas de métaphysique. Ça n'a rien à voir avec l'être. L'être continue d'exister sans les intelligences des hommes. Il leur dit bonjour, hein. Mais il continue. Tandis qu'une loi, elle existe par l'intelligence. Elle est l'œuvre de l'intelligence, la loi. C'est pour ça que les lois peuvent changer. Parce que les circonstances changent et les relations. C'est une relation, la loi. Tandis que le principe n'est pas une relation. Il est un absolu. C'est peut-être ça qui fait le mieux comprendre la différence entre le principe et la loi. Et ça, c'est très important. Parce que depuis le positivisme français d'Auguste Comte, de temps en temps à Paris, vous passez devant l'église d'Auguste Comte, parce que cet homme, il était religieux. Là, il ne fallait pas être religieux. Il a joué un rôle terrible en France. Auguste Comte confond le principe et la loi. Et tous les positivistes français confondent le principe et la loi. Il faut vous amuser à voir cette confusion. Alors, quand vous l'avez bien vu, vous commencez à comprendre ce que c'est que la saisie d'un principe. Le philosophe, dans sa science, cherche les principes, c'est-à-dire les premiers. Il cherche les sources. La source selon la détermination, causalité formelle. la détermination selon la cause efficiente, le premier à partir du mouvement, selon la cause matérielle en quoi, selon la finalité en vue de quoi, pourquoi. Il faut s'habituer à cette recherche des causes, hein, parce que toute la philosophie, toute la métaphysique et toute la philosophie reposent là-dessus. La recherche des causes, c'est-à-dire des principes, de ce qui est premier, ce que seule mon intelligence peut saisir. Je ne touche pas le principe. Je n'ai jamais touché avec mes mains et mes pieds le principe. J'ai touché des conclusions. J'écrase tous les vers, les conclusions. Seule l'intelligence saisit le principe. Et c'est le bien de l'intelligence, parce que c'est nécessaire. Le principe est quelque chose de nécessaire. Ce n'est pas relatif, c'est toujours nécessaire, un absolu. Ce au-delà de quoi je ne peux pas aller, c'est le principe. Ce au-delà de quoi je ne peux pas aller. Ma recherche s'arrête à un principe, à une source. Ça, c'est capital de comprendre. Donc, l'expérience et non pas l'expérimentation. Première distinction très nécessaire à faire, l'expérience. De l'expérience, je recherche les principes. Et les principes, selon la matière, selon la forme, selon l'efficience, selon la finalité. Il n'y a pas tellement de principes. Hein. Mon intelligence est ainsi faite parce qu'elle dépend toujours des sensations. Or, j'ai 5 sens. J'ai donc 5 contacts avec la réalité. Je vois, j'entends, je touche, je mange. Contact avec la réalité. Manger est un autre contact que la main. Je mâche. Je détruis et je saisis bien. Quand vous mâchez une noisette, vous la cassez, vous l'analysez, pauvre cassette, hein, en l'analyse, la coupez, vous divisez. Analyser, c'est diviser, parce qu'on voit mieux. Quand on voit un gros bloc, on ne sait pas, ah, on le coupe, ah, tiens, on voit l'intérieur comme ça, on ne le voyait pas avant. C'est l'intelligence qui divise, c'est l'intelligence qui cherche à saisir le principe interne, ce qui détermine la chose. Une fois que j'ai découvert les principes qui existent, je reviens à l'expérimentation, je reviens à mon expérience pour voir comment ces principes existent. Vous voyez, quand je découvre mon âme est un principe. Hein. Mon âme est un principe, ce n'est pas une loi. Mon âme est un principe. Principe de vie. Principe de vie. Voilà. Je reviens à mon expérience, je me dis, comment s'exerce ce principe? Comment s'exerce ce principe? Je suis devant quelque chose de beaucoup plus concret que je peux toucher, expérimenter, le comment. pour bien comprendre un exemple. Vous comprendrez tout de suite. Dans l'évangile de Saint-Luc, Saint-Luc rapporte l'Annonciation. L'ange annonce à Marie un principe. Tu seras mère. La maternité est un principe. Mais de celui qui est fils du Très-Haut. Donc je saisis deux principes. Le principe matériel, Marie, la maternité. Elle sera mère de celui qui provient du Père. Le principe ultime. Le Verbe provient du Père. Marie écoute ça dans le silence. On reçoit un principe dans le silence. La foi adhère au principe révélé. C'est un principe révélé, ça. La maternité de Marie. La maternité de Marie vue dans la vision de la paternité. De sorte que maternité de Marie et paternité du Père sont révélés en même temps. Ces deux principes, les principes selon que Jésus assume l'humanité, les principes selon que Jésus est le Verbe de Dieu. Il y a un grand silence. Et puis il y a question. Marie ne pose pas de la question sur le principe. Elle pose la question sur le comment. Comment cela peut-il se faire? Et l'ange lui répond, l'Esprit Saint. Ça, seul Dieu peut donner ces réponses-là. Hein, parce que c'est une réponse qui nous échappe. L'Esprit Saint, il nous échappe. Il nous est donné, mais il nous échappe. On ne possède pas. Vous ne dites jamais au Saint-Esprit ce qu'il faut faire, mais le Saint-Esprit vous dit ce qu'il faut faire. Parce que c'est quelque chose qui dépasse. Le comment. C'est très étonnant, hein, de voir dans Saint-Luc cette distinction entre la question. Tu seras mère, elle sera mère du Fils du Très-Haut. Et puis, la question de Marie, comment? Dans la vie, hein, on vous dit faire ceci, réaliser ceci dans l'obéissance. Et vous y adhérez, mais vous dites tout de suite, mais comment puis-je faire ça? Je réfléchis sur la manière dont je peux réaliser ça. Vous voyez, ces deux questions sont extrêmement importantes. La question du « qu'est-ce que c'est ?»« Ti esti » en grec. « Ti esti » Le « ti esti » d'Aristote. « Qu'est-ce que c'est ?» Vous posez la question « qu'est-ce que c'est ?» Et puis la question du pose, du comment. Comment réaliser ça? Comment cela peut-il se réaliser? Je ne connais point d'homme. Je ne connais point d'homme. Ça n'a rien à voir avec Marie, mère du Fils du Très-Haut. Je connais point d'homme. Ah, la réalisation. Normalement, la maternité implique l'homme. C'est très important d'arriver à distinguer bien dans notre vie intellectuelle, dans nos recherches intellectuelles, la question « qu'est-ce ? » « Qu'est-ce cela ?» Bon, la question « qu'est-ce cela ?» se divise selon les quatre causalités. Qu'est-ce ? En quoi ? Qu'est-ce ? Au point de vue détermination. Qu'est-ce ? Au point de vue du mouvement. Qu'est-ce ? Au point de vue de la finalité. C'est toujours la question « qu'est-ce ? » Qui est-ce ? Qu'est-ce que c'est ? Et ça, c'est la question la plus fondamentale. Hein. Qu'est-ce que c'est ? Et puis la question du comment. Comment réaliser ça ? Bon, tout le monde connaît ça, hein. Mais on n'y pense pas. Le philosophe met ça en pleine lumière pour essayer de comprendre qu'est-ce l'être ? Ah. Ce qu'il y a de plus fondamental dans toutes mes expériences, c'est ce qui est l'être, ce qui existe, ce qui est. Et je me pose la question, qu'est-ce ? C'est une substance ? C'est un acte ? Au point de vue métaphysique, il n'y a que deux recherches à propos de l'être en tant qu'être. Qu'est-ce, au point de vue de sa détermination et au point de vue de sa finalité ? En vue de quoi ? En vue de quoi l'être ? Bon. Vous avez une question ? Je suis. Hein. J'existe. Alors, j'existe. Qu'est-ce que je suis ? Quel est mon être ? Est-ce qu'il est le même que celui des animaux ? Ou est-ce qu'il y a une différence ? Je vois que mon être, ben oui, il est spécial. Il est particulier. Je suis un être qui peut penser, qui peut aimer. C'est la différence des réalités inférieures à l'homme. Qu'est-ce que l'homme ? Vous voyez, la métaphysique, hein, elle est toujours pour l'homme, il ne faut pas l'oublier. Je fais de la métaphysique pour connaître l'homme. Et tant que je n'ai pas fait de métaphysique, l'homme, je ne le connais pas dans ce qu'il a de plus fondamental. Son être, sa vie, mais ça suppose son être. Et c'est un vivant, mais c'est un être, là. L'être humain. Parmi toutes les réalités que je connais, la plus parfaite, c'est l'homme. C'est donc l'être le plus parfait que je connais, que j'expérimente. Je veux savoir ce qu'il est, comme être. Puisque c'est comme être qui dépasse tous les autres. Je dépasse la vache dans mon être. Mon être n'est pas l'être de la vache, n'est pas l'être du crapaud. Mais pourtant le crapaud existe et la vache existe. L'être prend des modalités très différentes et l'être prend cette modalité spéciale, moi, je suis. Bon, vous voyez, la métaphysique, c'est donc cette étude fondamentale de ce que nous sommes en tant qu'être. Et ce que nous sommes en tant qu'être, le plus parfait, c'est l'homme. Je n'ai pas de réalité plus parfaite que l'homme. Mais ta physiquement, je ne connais pas de réalité plus parfaite que j'expérimente directement. Dieu, je ne l'expérimente pas directement. Dieu, il m'échappe. Il est, au plan métaphysique, le grand inconnu. C'est d'abord ça, en premier lieu. Plus j'arriverai à me connaître, plus j'arriverai à connaître celui qui m'a engendré dans mon âme, dans la partie spirituelle la plus profonde qui est en moi. Ma substance, c'est mon âme. Et donc, quand j'étudie la substance, j'étudie quelque chose qui n'est pas loin de moi. J'étudie mon âme. Savoir avec précision ce qu'est la substance, ce n'est pas du tout quelque chose de lointain. C'est d'essayer de comprendre qu'il y a en moi un principe d'être indépendant de tous les autres êtres. Dépendant au point de départ, parce que je nais dans la fragilité. Mais si je nais dans la fragilité, c'est mon corps. Mon âme, elle va se développer toute seule. Et elle se développera d'une façon ultime pour savoir quelle est sa finalité. J'existe. J'existe pourquoi ? Pourquoi j'existe ? C'est une question quand même importante. C'est la grande question. Pourquoi j'existe ? Et c'est la finalité en vue de quoi j'existe. C'est ma finalité me donne le sens profond et dernier de ce que je suis. Et comment j'existe ? Ah, comment j'existe ? J'ai existé au point de départ dans une famille. J'étais tout petit, heureusement que d'autres ont eu soin de moi. Autrement, j'aurais disparu. J'étais trop faible. Et j'acquiers progressivement une certaine autonomie. Ah, ce qui est premier dans la personne, c'est l'autonomie. Quelqu'un qui est complètement dépendant de son milieu, qui n'a aucune autonomie, il reste toute sa vie un enfant. Et il n'est pas une personne. Obéir, ce n'est pas du tout perdre sa personnalité. C'est au contraire la gagner. C'est s'appuyer sur quelqu'un qui est devant moi. S'appuyer sur quelqu'un qui est plus grand que moi. Mais je m'appuie sur lui pour acquérir moi aussi, progressivement, mon autonomie. Ma manière propre d'être, à la différence de la vache, à la différence du crapaud, ma manière propre d'exister, c'est d'exister personnellement. C'est moi. Et c'est différent de mon individu. Mon individu particulier. Je sais très bien que mon individualité joue. Ça vient de mon corps. L'individualité. Ah, tandis qu'au contraire, ma personne, elle vient de mon âme. je sais ce que je fais et comment je me développe. Vous voyez, la personnalité, qu'est-ce que c'est que la personne? La personne, c'est une manière particulière d'exister. Une manière, c'est un pos, un comment. Ce n'est pas un principe, non. Ma personne, ce n'est pas mon âme. Quand vous voyez un petit gosse, hein, dans les bras de sa mère, vous ne lui dites pas « Oh, oh, quelle belle personne !» Non. Vous dites qu'il est très gentil, ce petit moutard. Très gentil. Et vous faites toutes les... Vous voyez toutes les ressemblances avec sa mère et son père. Mais le petit enfant, il n'a rien de personnel. C'est un individu. Parce qu'au fond, c'est le corps qui détermine toute sa vie. Alors, vous voyez, dès le point de départ, la distinction entre nature et personne. La nature est un principe. La personne, c'est une manière de vivre. Une manière de vivre, c'est très important. Ce n'est pas n'importe quelle manière de vivre. Celui qui a tout abdiqué, parce que tout ce qu'il faisait, tout le monde le critiquait, au bout d'un certain temps, il en a marre. Il dit, c'est ça, peu importe ce que je fais. Il abdique. La personne, c'est donc ne pas abdiquer. C'est développer mon être donné, ma nature. J'ai un donné premier que j'appelle la nature. La nature, c'est mon donné premier. Je développe toutes les capacités qui sont en moi. Au point de départ, je suis un être très capable de se développer et qui se développe de telle ou telle façon différente. Et ces différentes manières de se développer sont des manières personnelles. Vous voyez donc, la personne, c'est quelque chose que j'acquiers. Ma nature, elle m'est donnée. Et je vois très bien, la nature, c'est un principe particulier. J'ai une nature humaine qui n'est pas la nature animale. Dès le point de départ, je suis là au niveau des principes. Ma nature humaine n'est pas la même que la nature animale. Ah, quelle différence y a-t-il? Ah, c'est que ma nature humaine implique la raison, implique l'intelligence, implique la volonté. Et donc, n'est personnel dans ma vie que ce qui relève de ma volonté. Ce qui relève de ma volonté, c'est l'orientation de ma vie. J'ai opté pour un genre de vie particulier. Ma nature humaine peut très bien se réaliser diversement. Il y a dans la nature humaine des possibilités extraordinaires. Mais j'ai dû et je dois constamment, tout le temps, opter pour tel développement de ma nature. Alors au point de départ, évidemment, je me suis laissé, on m'a dit qu'il fallait subir une éducation. Alors j'ai subi une éducation, je l'ai acceptée. Mais petit à petit, cette éducation, je la fais mienne. Je comprends qu'il faut développer en moi mon intelligence, ma volonté, mes capacités. Il faut développer dans mon corps l'agilité, la possibilité de pouvoir faire quelque chose, réaliser quelque chose. Donc, au point de départ, ce qui permet de discerner et de faire la différence entre le comment de l'homme et le comment de l'animal. Le comment de l'éléphant. Demandez à l'éléphant de jouer de la musique et du piano. Et dans les cirques, vous ferez ça. Mais vous faites subir à l'animal, la pauvre, pauvre éléphant, vous lui faites subir des choses au-delà de sa nature. C'est pas propre à l'éléphant de jouer du piano. C'est très artificiel. Et c'est pour ça que ça nous fait rire. Parce que c'est j'allais presque dire, c'est monstrueux. Cet animal énorme, la patte de l'éléphant. C'est pas fait pour jouer de la musique et du piano. Ah non, il faut un piano du reste spécial, particulier. Oui, mais tout est comme ça, hein, dans l'éducation. Ce qui est propre à l'homme développe sa personne. Alors, ce qui est propre à l'homme, c'est ce qui est conforme à sa finalité. Ah, tout de suite. Ma finalité, ce pourquoi je suis créé. Ce pourquoi je suis créé. Suis-je créé pour imiter l'éléphant? Suis-je créé pour imiter le singe? Non, c'est l'inverse. Le singe doit m'imiter, l'éléphant doit m'imiter. Oui. Pour être un animal domestique, il faut que l'éléphant m'imite. Et c'est ce que l'homme fait très charitablement. Il fait que l'éléphant s'élève et puis devient domestique. Tiens, pauvre éléphant. Alors, il perd de son caractère. C'est vrai, quand vous avez des éléphants qui sont trop domestiqués, vous dites, c'est plus un éléphant. C'est un éléphant qui est bien trop au service de l'homme. Tandis qu'un éléphant qui est vraiment un éléphant, bah, il n'est pas au service de l'homme. Non. Il est à son propre service, l'éléphant. C'est pour ça que si vous l'agacez un peu trop, il va devenir méchant. C'est très curieux, hein, de discerner dans toutes vos activités ce qui est des activités personnelles. Et ce qui n'est pas une activité personnelle. Et donc, le premier caractère que je dois discerner dans l'activité humaine, en tant qu'activité humaine, c'est la marque de fabrique. L'autonomie. Vous voyez ? Quand vous êtes esclave. Vous n'avez aucune autonomie. Et donc, la pauvre personne humaine ne se développe pas. Elle n'a pas pu se développer dans son sens. Elle s'est développée en raison de l'autre, du maître, qui vous a possédé. Mais vous avez développé des individus, mais pas des personnes. Ces individus peut-être obéissent parfaitement, mais ne sont pas humaines. C'est très important la distinction entre la nature et la personne. Toute ma métaphysique est pour que je distingue les deux. Ce qui en moi est personnel et ce qui en moi est individuel et relève de ma nature. Tout ce qui relève de la nature à cause de mon corps, ben, c'est pas personnel. Je suis petit ou je suis grand. C'est une donnée naturelle. Mais tout de suite, la personne humaine se développe autrement chez une personne dont le corps est arrivé à la dimension de 2 mètres. On voit tout sous la dimension de 2 mètres. C'est une donnée, ça. Et c'est pas personnel. Vous venez pas dire à quelqu'un, « Oh, quelle personne merveilleuse, vous avez 2 mètres. » Ça n'a rien à voir avec la personne. C'est très individuel. Ah, que ça modifie constamment votre activité, c'est sûr. Vous avez un développement différent qui se fait parce que vous devez développer cette carcasse de 2 mètres. Elle grandit tellement qu'on ne sait pas l'arrêter. Ça arrive, ça. Alors, ça dépasse 2 mètres, ça devient inquiétant. Il faut arrêter. Alors, le médecin est là pour me permettre d'arrêter. Mais la nature. Vous seriez seul dans la nature, vous laisserez pousser votre corps, selon toutes les exigences de votre corps. Ah, mais vous vivez en communauté. C'est gênant d'avoir 2 mètres 10. Je domine tout. Et j'ai une vision de domination. Alors que le petit Zaché, il a une vision à sa taille. Et comme son corps n'arrivera jamais à dominer les autres, oh, il va se rattraper par l'intelligence. Et vous allez voir un équilibre différent de la personne chez celui qui a développé sa personnalité au-delà de son corps et celui qui a développé sa personnalité à l'intérieur de son corps. Intérieur, extérieur, c'est très important pour le développement de l'autonomie. Chacun d'entre nous, hein, nous avons cherché longuement où trouver notre autonomie. Comment trouver notre autonomie? Quand même pas être tout le temps dépendant avec un collier au cou. Hein. La Fontaine montre ça admirablement, un petit collier au cou. L'obéissance peut être un collier au cou. Oui, une obéissance très forte. Alors, à ce moment-là, ce n'est plus vous-même. Vous avez développé un pauvre serviteur. Alors, il y a des serviteurs qui sont très intelligents et plus intelligents que leur maître. Tiens, parce qu'ils ont compris comment pouvoir dominer leur maître. Nous avons tous en nous l'intelligence qui nous permet de voir les défauts de celui. Dans la vie religieuse, hein, le supérieur n'a pas de défauts. Mais ça, c'est différent. C'est tout à fait différent. Mais en dehors de la vie religieuse, vous voyez, si la vie religieuse était faite humainement, on aurait des esclaves. Mais la vie religieuse, vous êtes faite divinement, c'est autre chose. Il y a une personne divine qui peut se développer en nous. Alors, on accepte d'être dépendant, parce que c'est la dépendance à l'égard du Christ. C'est le Christ qui devient le modèle. Et tout est changé. Vous voyez, c'est comme ça qu'on arrive à déterminer petit à petit qu'est-ce que c'est que la personne. Le problème intéressant pour nous, c'est que le problème de la personne doit être vu du côté métaphysique et non pas du côté psychologique. Parce que le problème de la personne s'est développé énormément du côté psychologique. Et alors on croit que c'est la psychologie qui me fait comprendre ce que c'est que la personne. C'est faux. La personne se comprend par la finalité. Et la finalité métaphysique de la réalité. La personne, elle est enracinée dans la réalité. C'est une manière d'être. C'est une manière d'être qui se développe dans une manière d'opérer. Alors, la personne s'est développée, il faut le voir, d'une façon très, très, très nette. Elle s'est développée énormément du point de vue psychologique parce que les métaphysiciens étaient paresseux. Dans la scolastique, hein, la métaphysique qui vient de saint Thomas, on ne traite pas de la personne. Alors, je me suis posé la question, est-ce qu'on doit traiter la personne en métaphysique ou en psychologie? La réponse, c'est des deux manières. Vous devez traiter la personne au point de vue métaphysique, manière d'être, manière d'opérer. Operatur sequitur esse. L'opération suit l'être. Et vous devez regarder la manière. Ça, c'est très, très important. Mais évidemment, ce n'est pas classique. Psychologiquement, le thomisme laisse le développement de la personne à la psychologie. Or, je crois qu'on doit regarder la personne en premier lieu du côté métaphysique. Il y a une preuve, c'est que la théologie se sert de la personne. Elle ne peut s'en servir que si la personne est vue métaphysique. Donc, ce qui prouve que saint Thomas lui-même avait une vision métaphysique de la personne. Thomas ne pourrait pas parler de la très sainte Trinité. Si vous n'avez pas une vision métaphysique de la personne, vous ne pouvez pas vous servir de la personne en théologie. Parce que que c'est la personne humaine que vous voyez, c'est pas la personne. La personne humaine est un type de personne. Mais elle est vraiment une personne. C'est le propre d'une nature qui implique l'intelligence et la volonté de se développer personnellement.